Hey, how you doing?
Now, say my name.
You can't do anything with the information you have except maybe publish it in the Everyone Thinks We're Insano's home journal.
I come here to help, but y'all out for blood. I'm not answering no more questions.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 55 de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Un débat sévère mais bonne patte, livré tout chaud chaque lundi, pétri à base de farine de critiques et de levain journalistique, pour un résultat croustillant. Pierre Langlais de Télérama pour vous servir avec moi cette semaine, Jean-Maxime Renaud d'Allociné, salut Jean-Maxime.
Salut Pierre.
Adrien de l'âge de Combini, bonjour Adrien.
Salut Pierre.
Et Corentin Durand de Numérama, hello Corentin.
Salut.
Au menu, une émission non pas sur pas de pitié pour les croissants, comme le laissait penser mon intro, mais sur les séries high concept, comme on dit en bon français, ces œuvres au scénario complexe, truffées de rebondissements et reposant sur des concepts originaux et volontiers excessifs. Des séries souvent dramatiques, mais pas que, qui existent depuis belle lurette, pensez aux Prisonniers par exemple, ont connu la gloire au début des années 2000, l'époque de Lost et Prison Break, et tentent un retour timide ces dernières saisons, avec notamment Westworld et la toute dernière du genre, The Crossing. On en parle tout de suite, sans twist et sans embrouille dans un épisode et j'arrête.
The hell are you doing, Tubby?
Checking to see if I'm disappearing.
What?
Back to the future, man. We came back in time to the island and changed stuff. So if little Ben dies, he'll never grow up to be Big Ben, who's the one who made us come back here in the first place. Which means we can't be here, and therefore, dude, we don't exist.
You're an idiot.
Am I?
Yeah. It doesn't work like that. You can't change anything. Your maniac Iraqi buddy shot Linus. That is what always happened. It's just, we never experienced how it all turns out.
It was really confusing.
Yeah, well, get used to it.
Comment débuter cette émission, chers amis, sans un petit extrait de Lost? Quand on pense high concept, on pense Lost. Enfin, en tout cas, moi, je pense Lost. C'est pas un hasard si son diffuseur à l'époque, ABC, vend son nouveau poulain, The Crossing, comme sa descendante. On va en reparler. Pourtant, Lost n'est pas tombé du ciel. Les séries à concept, d'où viennent-elles? Où étaient-elles avant Lost, chers amis? C'est le quart d'heure histoire qui se jette à l'eau. Par exemple, Jean-Maxime.
Ben, j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup, en fait. Dans les années 60, 70, 80, tu as cité Le Prisonnier. Il y avait aussi Le Fugitif, je pense qu'on peut considérer que c'était du high concept. Et ensuite, dans les années 80, V. Mais à part ça, j'ai pas d'autres exemples, en tout cas, de séries qui ont marché vraiment, qu'on retient, quoi.
Personne d'autre ?
Si, moi je me rappelle quand j'étais enfant, parce que alors, moi je suis né au milieu des années 1990, du coup Lost, non seulement c'était ma porte d'entrée pour les séries à concept, mais pour les séries tout court.
Donc toi c'est déjà un truc de vieux, ouais ok je vois.
C'est pas ce que je voulais dire, mais en tout cas je me rappelle que moi mon père m'avait montré des épisodes d'une série qui s'appelait L'Homme qui valait 3 milliards, qui était diffusée dans les années 1970 je crois.
Oui.
Donc on avait cet astronaute qui s'écrasait sur Terre après un voyage lunaire, et donc on reconstruisait complètement pour en faire un cyborg. Et après il était engagé par le gouvernement américain, et à ce moment-là il devait faire des missions qui étaient toutes incroyable, et je me rappelle notamment d'un épisode où il devait affronter le Bigfoot.
Dans ce cas-là, on peut déjà considérer que toutes les séries qui sortaient un peu du réel sont du high concept. C'est vrai que la définition du genre est difficile. Qu'est-ce qui est high concept? Est-ce que dès qu'une série, est-ce que dans ce cas-là, je sais pas, moi, MacGyver, c'est du high concept? Enfin voilà, c'est très difficile de définir les limites. Alors, par contre, quel intérêt le high concept peut avoir? D'abord, un scénario accrocheur, j'imagine. Qu'est-ce qui fait que le high concept existe, pour dire la chose simplement?
Moi, je crois que ça tient aussi à la marque que va élaborer aussi la série. On va retenir une audience avec quelque chose qui se retient, qu'on a envie de retourner voir et qu'on a en tête au sens, c'est-à-dire dès le pilote, on sait ce qu'on va regarder, on sait ce qu'on va voir. Et puis, il y a évidemment aussi le côté, la liberté d'écriture que ça va permettre, parce que c'est quand même des séries qui, parce qu'elles sont souvent quand même décalées et font tomber quand même... on va dire, beaucoup de principes de vraisemblance permettent de poser son cerveau, non pas parce qu'elles sont idiotes, mais vraiment parce qu'on est... c'est ça, la gravité de la vraisemblance de la série classique n'a plus lieu, et donc on peut se projeter dans des choses assez folles qui peuvent retenir l'attention du téléspectateur, et et faire penser au cinéma qui, quand même, se tourne de plus en plus aussi vers du high concept.
Je suis assez d'accord. Surtout que je trouve qu'on les rapproche par rapport au cinéma du côté de ce qu'on a tendance à dire, une expression un peu galvaudée, je trouve, à notre époque, mais des blockbusters intelligents dont on parle pour notamment les films de Christopher Nolan. Et je trouve que du coup, le high concept, c'est une série qui arrive à mélanger le spectaculaire avec une vraie vision d'auteur. Et à mon avis, c'est pas anodin si Jonathan Nolan, qui est donc le frère de Christopher Nolan, qui a écrit les scénarios d'Interstellar et du Prestige, se retrouve à faire une série comme Westworld.
Après avoir fait Person of Interest, qui est au demeurant une série high concept. Alors avec un rythme de l'enquête hebdomadaire, mais qui part d'un high concept, en tout cas au départ.
Et elles sont toutes un peu arrivées à la même période, donc le début des années 2000, et ça correspond à la fois à l'arrivée du câble, et du coup les grandes chaînes, des grands networks devaient trouver des idées originales qui sortaient des cop shows, etc. habituels. Et aussi, c'était après le 11 septembre, et que ce soit 24...
Qui est une série concept, d'ailleurs.
Oui, je pense que c'est la première des années 2000, avant Lost, en fait, Alias aussi. Et souvent, en fait, High Concept, ça va avec Conspiration, et donc 11 septembre, et avant le 11 septembre, il y avait X-Files, c'était à peu près tout, quoi.
Alors, c'est un des genres les plus sériels, dans la mesure où il exploite à fond les outils disponibles dans la boîte des scénaristes. Twist, Cliffhanger, tu le glissais tout à l'heure, hein, Quentin, quand t'as commencé à parler de tout ce que ça pouvait utiliser pour retenir l'attention du téléspectateur. Twist, Cliffhanger, fausse piste, bond dans le temps, tout est possible finalement dans le high concept, c'est un peu comme dans le cochon. Et c'est ça aussi qui fait que le high concept, ça marche à la télé, en tout cas, ça, c'est tentant à la télé parce que c'est la boîte à outils complète du petit scénariste.
Ben on en revient toujours aux soaps, mais en fait, c'est utiliser les ingrédients habituellement utilisés par les soaps, donc les rebondissements, les cliffhangers, dans des univers très différents. Et par exemple, 24, c'est dans un univers d'action, thriller. On peut avoir des high concepts policiers, enfin, ça s'applique à tous les genres, en fait. C'est pas un concept en lui-même, c'est une sorte de sous-concept.
Alors, mais le souci, c'est que le nombre d'entre elles oublient de développer des personnages et se perdent dans les méandres d'un scénario improbable, mais terriblement creux. C'est toujours ce qu'on reproche aux mauvais concepts, c'est finalement d'avoir une super idée trop cool, mais sauf que ça aurait fait une bonne pub, mais ça fait pas une série. Ça a été le problème de pas mal de Lost-like, hein, comme on dit, ces séries des années 2000 et 2010 qui ont voulu être le nouveau Lost. Alors, soit vous êtes sériephile, soit vous n'avez jamais entendu parler de The Event et Révolution, peut-être un petit peu plus de flash-forward, quoique des séries qu'on a très très vite oubliées, qui étaient pourtant les événements, tellement que The Event, ils sont permis d'appeler leur série l'événement de l'époque, mais qui ont fait, mais pshit, directement.
Parce qu'elles étaient toutes comparées à Lost, tout de suite, et la comparaison était juste impossible.
Elles avaient des personnages quand même beaucoup plus faibles. La force aussi de Lost, revoyez Lost aujourd'hui, c'est que c'est une série qui prend vraiment le temps de construire ses personnages et d'avoir des vraies individualités.
Ouais, et puis moi j'ai en tête cette espèce de division dans les séries high concept où il y a celle qui va avoir ce what if qui vient balancer finalement énormément de rocambolesque quoi dans le show et qui va ainsi plier son personnage dans tous les sens, les balancer dans des centrifugeuses et c'est dommage s'ils disparaissent mais c'est pas si grave et on découvre qu'un personnage a 8 personnalités, c'est pas grave, ça fait partie du concept. Et puis l'autre, on va dire high concept qui est peut-être le bon, qui est celui qui va se servir de cette grande liberté pour développer son personnage dans un sens unique et surtout toucher plus la métaphysique pour Lost, par exemple.
Adrien ?
Oui, et puis aussi, souvent avec un concept rythme série chorale. Donc on a une vaste palette de personnages qui sont souvent assez archétypaux parce que malgré tout, il faut quand même les reconnaître très vite pour capter son audience. Et je trouve que la force de Lost, c'est qu'elle arrivait via son scénario, à recentrer son intrigue sur ses personnages. Et je pense notamment aux huit candidats de Jacob, à la fin, qui nous permet de comprendre qu'en fait, depuis tout le début, il y avait un but. Et récemment, je trouve que celle qui arrive aussi à justifier par son scénario ses personnages, c'est Sense8. Parce qu'ils sont tous liés. Et du coup, si l'un faiblit, et ben malheureusement, c'est tout le groupe qui tombe. Donc du coup, ça rehausse les enjeux.
Ce sont deux séries qui, au-delà de leurs histoires complètement dingues, sont avant tout des histoires intimistes. C'est avant tout des histoires d'accomplissement, de deuil, d'aller de l'avant. Finalement, Lost, tout se résume presque à une quête intime, interne, et non pas du tout... l'île, c'est presque une métaphore. Enfin, c'est un lieu qui sert de révélateur.
toutes les autres séries ont fait l'effort de mettre le mystère au centre, comme si c'était ça finalement qui intéressait le plus les gens, alors que les gens qui ont aimé Lost jusqu'au bout l'ont aimé pour les personnages et pas pour le mystère.
Le plus grand des mystères, c'est évidemment la vie, et c'est ce que The Leftovers, descendante câblée de Lost, avait très bien compris. Soyons, et série high concept d'ailleurs aussi, The Leftovers, qui part d'un point de départ, hein, disparition de 2% de l'humanité. Voilà, on est dans quelque chose qui aurait pu être flash forward, quoi. Voilà, qui aurait pu être ce genre de série-là.
Et qui décide tout de suite de ne pas répondre à la question, au mystère. Du coup, ça c'est réglé, quoi.
Soyons clairs, le high concept ne s'applique pas qu'au drame. Les comédies aussi y sont passées, de Alf, et ouais, bah finalement c'est un high concept, c'est quand même un extraterrestre qui s'installe chez les gens. Ah, pour être un petit peu plus actuel et un peu plus sérieux, The Good Place, en passant par How I Met Your Mother ou Wilfred, que tout le monde a oublié d'ailleurs, mais elle a quand même existé. Qu'est-ce que la comédie y gagne à faire du high concept ?
Renouveler des genres qui ont été usés jusqu'à la corde. La comédie romantique, How I Met a trouvé un moyen de la renouveler un peu. The Good Place, au fond, c'est un peu une comédie de bureau. Le créateur, d'ailleurs, avait fait Parks and Recreation juste avant. Et c'est ce qui se passe, finalement. C'est presque des collègues, tous ces personnages, et ils se retrouvent dans une situation complètement dingue.
Corentin ?
Ouais, et puis je crois, pour The Good Place, ou même on peut penser à ce... quand même ce truc est bon, pas terrible, mais Santa Clarita Diet, c'est aussi un moyen, un peu comme pour le drame, de mettre de côté certains principes de vraisemblance et arriver à une écriture un peu plus abracadabrantesque qui permet vraiment de finalement de rire de deux manières. Il y a le comique de situation et puis après un comique de situation qui est plus méta, qui est on va pouvoir adresser des problèmes un peu zinzin. Tout en se permettant ce qu'on pourrait pas se permettre justement dans une comédie de bureau, quoi.
Ça peut apporter aussi un autre niveau de lecture. Ça peut apporter, notamment pour The Good Place, ce côté imprévisible. Alors ça permet non seulement à la série de réinventer des codes anciens, mais aussi de se réinventer elle-même. Parce que sans rentrer dans le détail, on en a beaucoup parlé, hein, de The Good Place, qui est une série qui s'est complètement réinventée en deuxième saison. Ça permet... Tout est possible. Et là où un drame ne pourra pas se permettre de faire tout et n'importe quoi, une comédie, je crois, pourra le faire. C'est-à-dire qu'une comédie, How I Met pouvait se permettre des épisodes porc-nawak, mais c'est une comédie, ça passe. Là où le drame ne pourra pas le faire. Et c'est d'ailleurs presque étonnant qu'il n'y ait pas plus de high concept en comédie. Alors, il y en a quand même régulièrement. Mais c'est presque étonnant de se dire que les scénaristes ne se disent pas « Ok, je fais une comédie, je vais pouvoir me lâcher. » Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de dramédies, comme on dit, de comédies dramatiques qui essayent justement d'être près de la réalité, d'être crues, etc. Là où on se dit que des séries comme The Good Place pourraient bien marcher en disant justement « Écoutez, c'est de l'escapism, comme disent les Américains. On est là pour s'évader. Alors tant qu'à faire, on lâche les chiens et on se permet de faire des scénarios incroyables. » People with no other way out. We were the first group to attempt it. We knew there would be risks, but no one expected to arrive how we did. In the water beneath the surface, something went wrong.
With the time machine.
Look, I know how this must sound to you.
I'm not here to doubt you, I'm here to help you. But the fact is, you listed a date of birth almost 150 years from now. So please just help us understand how that's possible.
Un extrait de The Crossing, la nouvelle Lost-like de ABC. Avant de creuser plus avant les raisons du retour des high concepts, prenons une minute pour analyser cette série symptomatique des qualités et défauts du genre. Peut-être, chers amis, qu'avez-vous pensé en tout cas du premier épisode ?
C'est ni bon ni mauvais. Je pense qu'il y a 10 ans, on l'aurait peut-être plus accepté qu'aujourd'hui. On a vu tellement de choses qui se sont plantées dans ce genre-là que du coup, ça sort un peu de nulle part. Ça ressemble beaucoup aux 4400. Sauf que les 4400, à la base, en tout cas, c'était une mini-série et c'était bien quand c'était une mini-série. Puis
après,
quand c'est devenu.
Complètement parti en live.
Et d'ailleurs, je pense que c'est souvent, les high concepts devraient rester des mini-séries et pas des séries avec 22 épisodes par an. Et là, en fait, l'erreur, à mon avis, de The Crossing, c'est qu'on adopte tout de suite le point de vue, non pas des naufragés comme c'était le cas dans Lost, mais des gens qui assistent à leur arrivée.
Alors, de quoi ça parle rapidement?
En gros, c'est on sait pas combien d'ailleurs, enfin une centaine de personnes qui...
Il y a 40 et quelques survivants sur 400 personnes qui échouent sur la plage, si je dis pas de bêtises.
C'est voilà, qui échouent sur la plage, qui ont l'air de migrants. C'est un peu ce qu'on veut nous donner comme allégorie,
le
sous-texte. Et en fait, on découvre petit à petit, sans trop en dire, que...
Dès le premier épisode,
oui.
Quand même.
Oui, on apprend vraiment au fur et à mesure qu'ils viennent du futur, des États-Unis qui ont été visiblement en guerre civile, quelque chose comme ça, et ils viennent réparer sans doute le futur.
C'est une bonne définition. Messieurs, qu'en avez-vous pensé ?
Moi, pour revenir sur cette histoire de migrants, c'est vrai que c'est clair, c'est lourd, la scène d'intro, elle est là, elle a cette esthétique un peu riche, visuelle, on pense effectivement aux photos de la Méditerranée, mais du coup, je trouve la comparaison absolument horrible pour une série qui finit par un cliffhanger, enfin, sans trop en révéler, complètement conspirationniste. Il y a quand même un décalage entre l'ambition, on va dire, esthétique et même intellectuelle du truc, avec ce qui arrive à la fin, qui est quand même... Qui est quand même brutalement série conspi, qui monte comme ça en tension, mais avec des trucs de plus en plus gros. Et on se demande si, encore une fois, on se demande si le high concept est là pour balancer n'importe quoi et vraiment lancer sa série à toute vitesse sur un milliard de procédés, ou si un jour on va entendre quelque chose sur la migration, quoi.
Adrien.
Oui, et à la fois je trouve que en fait ça manque au final d'explosivité. C'est-à-dire que par exemple quand je reprends le pilote de Lost, bon alors certes il était en deux parties donc forcément ils avaient beaucoup plus de temps pour exposer la chose, mais je veux dire dans le pilote de Lost on voit cette scène ahurissante du crash où Jack court partout et puis ensuite il y a un ours polaire qui arrive, puis il y a un énorme bruit qui sort de la forêt. Et je trouve que dans The Crossing il manque un point d'ancrage pour le spectateur pour vraiment le hook quoi.
Ça se veut plus ou moins. Il y a quand même un des personnages qui semble être légèrement supérieur à la norme. Ça c'est un élément. C'est quand même une série qui se veut plus intimiste, je crois. Enfin, ça se passe dans un petit village. On n'est pas parti avec The Crossing dans quelque chose d'aussi énorme que pouvait l'être Lost. En tout cas, j'en ai l'impression. Je me trompe peut-être.
Non, c'est vrai, mais dans le pilote, on s'intéresse très peu aux naufragés. On les voit à un moment, il y a des interviews, des séquences d'interviews qui se succèdent. Ils sont 15 000, on sait pas qui est qui, comment ils s'appellent, etc. Et en fait, on s'intéresse à la vie amoureuse du shérif et qui est en plein divorce, etc. On s'en fout, c'est pas ça qu'on veut voir dès le départ. On veut voir les naufragés et comprendre qui ils sont, quoi.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nostalgique dans ce retour des séries à concept? Une nostalgie des années 2000 où les audiences étaient plus généreuses? Est-ce qu'il y a une envie peut-être des chaînes américaines d'aller recapturer cette audience qui avait aimé Lost et qui avait aimé les séries à l'époque? Est-ce que The Crossing, elle est un peu old school?
Elle a l'air, et surtout, moi, le côté Madeleine de Proust dans les séries high concept, c'est en fait à chaque fois, à chaque fin d'épisode, c'est d'aller sur les, enfin, quand j'étais plus jeune, c'est d'aller sur les forums et de débattre avec les fans des théories incroyables et c'est vrai que là, de ce côté-là, il y a un aspect nostalgique vraiment fort.
Sauf que ça marchera pas avec The Crossing a priori, mais par contre ça marche très bien avec Westworld, dont on reparlera après, mais pour le coup il y a vraiment des gens qui théorisent, etc. On n'avait plus vu ça depuis longtemps. Après, pour répondre à la question de base, les networks savent plus très bien ce qu'ils peuvent faire en fait pour attirer le public qui est parti ailleurs, et du coup ils font un peu de tout, des séries très très simples, très basiques, et puis des choses comme ça aussi qui reviennent du passé.
Série nostalgique, Corentin, les séries high concept?
Moi je crois que c'est vrai, je rejoins Jean-Maxime au sens où j'ai l'impression que c'est ce retour des séries concept, c'est un peu la débâcle des networks qui retrouve finalement ce moment des années 2000 qu'elles pensent effectivement âge d'or et qu'elles essayent de ramener à la raison. En plus le cap commence à faire du high concept, donc ouais, j'ai l'impression que c'est un peu...
Ça expliquerait le retour de Prison Break,
voilà,
d'ailleurs.
C'est ce que j'allais dire, même 24, on parle sans arrêt d'un retour de la série sous une autre forme, c'est ça aussi quoi.
Il semble quand même qu'on a retenu les leçons de l'après-Lost. On critiquait tout à l'heure ces séries comme Flash Forward en disant peut-être que les personnages n'étaient pas assez au centre. On peut pas reprocher à The Crossing, alors même si tu soulignes très bien qu'on ne s'intéresse pas, en tout cas pour l'instant, assez aux migrants, d'essayer dès le début de bien installer des héros avec des identités, des particularités, etc. Là-dessus, pour le coup, le petit livre de l'après Lost semble avoir été lu par les auteurs de The Crossing.
C'est vrai, si ce n'est que les acteurs ont l'air assez mauvais et pas très charismatiques.
Oh non,
le héros notamment,
Steve Zahn,
bah,
moi j'aime beaucoup.
Il était bien dans d'autres rôles, mais là ouais. Vraiment, du coup,
c'est le gars
sûr.
Sympa, Steve Zahn.
Ouais, c'est vrai. Bah là, il est sympa comme d'habitude, quoi.
Pas plus à dire sur cette histoire justement d'avoir retenu les leçons de l'après Lost, peut-être. Je me trompe peut-être, mais...
Peut-être, mais aussi, il faut laisser à The Crossing le temps de se développer, parce que je me rappelle aussi ce qui était fort avec Lost, c'est que moi, j'ai un peu créé ma culture avec. C'est-à-dire que c'était vraiment une fresque où on avait des références bibliques, des références philosophiques. Enfin, je veux dire, on a quand même des personnages qui s'appellent Hume, qui s'appellent Rousseau, qui s'appellent Locke. Donc, il y avait cette idée de grandir avec, vraiment de s'épanouir avec. Donc... J'ai envie de laisser le bénéfice du doute à The Crossing.
Alors, comme on parle de personnages, on va quand même aborder un type de série high concept qu'on a gentiment évité jusqu'ici, d'ailleurs plus ou moins volontairement, le super-héros. Plus high concept, tu meurs comme un mec qui vole ou qui balance des boules de feu. Est-ce que c'est une catégorie à part et c'est pas le sujet du jour, ou est-ce que finalement c'est exactement dans le sujet de la semaine et le succès des super-héros, c'est le succès de la série High Concept?
Pour moi, pas du tout. Pour moi, les High Concepts, les séries de super-héros, c'est vraiment hyper calibré, à peu près toutes. Peut-être à part Legion, mais qui est presque pas une série de super-héros, quand on la regarde. Non, au contraire, c'est toujours les mêmes codes, toujours les mêmes choses. Supergirl, Arrow, c'est toujours pareil. Arrow avait peut-être une petite différence au début, mais bon.
Ouais, non. Je pense que c'est plus du High Concept, déjà, parce que c'est très banal. Et donc, il n'y a pas cette notion de ça se résume vite, ça s'entend vite et ça casse l'écran. Et puis en plus, on est quand même sur des narrations et même, on va dire, une écriture qui n'est pas si high concept que ça. Je crois que le pire qu'on puisse voir, c'est quand même chez Netflix, où le super-héros, il n'est pas du tout high concept, quoi. C'est même l'inverse. Et à la limite, c'est vrai, chez DC, on a parfois quelques fulgurances comme ça. Enfin, pas forcément bon signe, hein, mais quelques effets de manche qui peuvent penser au high concept, mais c'est tout.
Parce que Legends of Tomorrow, par exemple, est un peu plus high concept. Et il y a une série qu'on n'a pas citée, tiens, Timeless. Ça, c'est de la série high concept, là, et pas trop mal d'ailleurs.
Oui, ça se regarde.
Ça se regarde pas mal. Et c'est vrai qu'on a peut-être pas, on l'a pas rangé tout de suite dans la catégorie. Alors, faut dire qu'elle est pas visible en France, si j'ai pas de bêtises, Timeless.
Non, t'avais fait l'acheter, mais elle l'a pas diffusé encore.
C'est plutôt un bon divertissement. Moi, j'ai pas vu toute la saison, hein. Je suis pas allé jusque là, mais ça.
C'est très familial, ouais. C'est très gentil.
Voilà. Ça arrive d'ailleurs souvent avec le high concept, puisque c'est de la série de grande écoute et on peut pas faire du high concept. Sauf que, on va en parler, le cap s'y est mis et ça change un petit peu la donne. Pour exister, pour se faire repérer par le public, il faut faire des trucs de dingue. La discrétion, les petites histoires, ça passe plus. Est-ce que le high concept, c'est finalement pas ça? Le retour, en tout cas, du high concept, c'est un symptôme de la Peak TV, c'est un symptôme de il faut qu'on me repère, il faut que je fasse un truc incroyable et du coup, je vais inventer une histoire de dingue.
C'était vrai il y a encore quelques mois, mais je pense que c'est en train de changer. On en a déjà parlé dans des précédents podcasts, mais que ce soit This Is Us, The Good Doctor, Empire, c'est des concepts assez simples, mais qui ont le petit truc en plus qui fait la différence. Donc, on va pas revenir sur chaque exemple, mais voilà, ils ont le truc qui fait que, et du coup, le public s'y retrouve parce que c'est finalement ce qu'ils attendent, quelque chose de simple et de pas très alambiqué.
Adrien ?
Oui, et puis je pensais aussi la discrétion peut se faire et exploser tout d'un coup. Je pensais par exemple à Netflix qui, pendant les fêtes de Noël, nous balance un The Away.
Et qui est une série avec concept. Alors là, pour le coup...
Complètement. Ouais. Et tout ça, c'est fait dans la plus grande discrétion. Et pourtant, aujourd'hui, on sait combien elle a marché, quoi.
Oui, qui n'a pas, ou qui a peut-être été vendu dès le début comme un high concept. Quand même, les gens savaient qu'ils allaient voir une histoire un peu... C'est niveau communication que c'était discret. Mais pas niveau de l'histoire. Moi, je voulais aussi parler vraiment de la nécessité peut-être de faire beaucoup de bruit. Voilà. Après, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je crois que même s'il y a quand même un effet maintenant affectif et un retour au simple, il y a quand même toujours ce besoin de pitcher une série de plus en plus vite, que quand on est face à notre mosaïque Netflix qui est quand même exponentielle, qu'on ait un truc où on se repère vite, on sait vers quoi on va et on le retient. Et puis, c'est vrai que du coup, on comprend mieux. Pour revenir par exemple à la comédie, je trouve que c'est très lisible sur la comédie. On entend beaucoup plus parler de Santa Clarita et de The Good Place que d'un Atlanta. Parce que je crois qu'il y a quand même... Enfin, je parle, on va dire, dans la rue. Hein. Il y a quand même ce truc où, sur des genres comme ça, ça va vite, on retient, il y a une image qui est assez forte, qui revient. Et malheureusement, je crois que non, il y a tendance quand même à cette exagération, à retenir une attention sur des genres peut-être moins fort que le drame, enfin pas moins fort mais moins en vue. This world deserves to die. Because this is your world. We've lived by your rules long enough. We can save this world. We can burn it to the ground. And from the ashes, build a new world.
Un extrait de la bande-annonce de Westworld saison 2 qui arrive ces jours-ci sur HBO et OCS. À l'heure où nous enregistrons cette émission, nous n'avons rien pu en voir malheureusement. Mais c'est un symbole du passage du câble au high concept. Jusqu'ici, c'était surtout un truc de grande chaîne. Non, c'est assez récent quand même sur le câble. Alors, sauf si on considère que Oz, c'est du high concept, ce qui en soi, ça peut se défendre. C'est plus du... Oui, si, c'est une forme de high concept, mais pas à la Westworld. Il s'est passé un truc récemment. Le câble s'est mis... high concept, ça change la donne ?
Disons que le Cap peut se permettre des high concepts beaucoup plus high. Parce qu'ils ont plus d'argent, et donc Westworld sur ABC, c'est pas possible, par exemple. Il y a des histoires comme ça, c'est souvent des adaptations d'ailleurs de livres ou d'anciens films qui sont pas faisables autrement que sur le câble, et ils mettent vraiment tous les moyens. On le voit avec Game of Thrones, qui a de plus en plus de moyens chaque saison et qui a mis la barre très haut.
Ça a changé la donne, finalement. C'est Game of Thrones qui a changé la donne. C'est ce moment où on s'est dit, en fait, faut montrer les muscles, et pour montrer les muscles, on est tenté de faire du high concept.
Moi, je crois que Game of Thrones est intéressante parce que il s'y joue un peu deux choses. Il y a le moment où les chaînes câblées découvrent qu'il y a un public qui connaît Dostoïevski et qui aime Marvel en même temps. C'est un peu ce truc qui aime l'heroic fantasy mais qui est pas non plus incapable de réfléchir en regardant une série. Après, je trouve que Game of Thrones, c'est assez terrible, en fait. Enfin, moi, j'aime Game of Thrones et je trouve que c'est quand même ce qui est arrivé de plus ouf en série récemment, mais je trouve que c'est assez terrible pour HBO qui maintenant est dans une sorte de course à l'impossible à recommencer ce truc qui est quand même de moins en moins bien, de plus en plus cher, et on se demande si on finit quand même pas par avoir, enfin si ça ne pose pas un problème ce genre de série.
Et justement, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la Peak TV et j'y ajoute un signe dollar. Est-ce que le high concept, c'est pas aussi un symptôme de la course à la grosse production et aux milliards de dollars, au final, je dis milliards, mais globaux, qui peuvent être aspirés par ce genre de série?
Si, complètement. Et d'ailleurs, j'ai noté quelques chiffres, mais alors la saison 7 de Game of Thrones, c'est 14 millions de dollars par épisode. Westworld, la première saison, c'est entre 8 et 10 millions par épisode. Et The Man in the High Castle, du côté d'Amazon, c'est environ 11 millions par épisode. Et en fait, ce côté blockbuster qui coûte des millions de dollars, et ben c'est une tendance qui est en train de se créer. Je pense notamment à Amazon qui annonce un préquel du Seigneur des Anneaux, qui nous dit que les deux premières saisons vont coûter 500 millions de dollars. Il y a le Watchmen de Damon Lindelof qui, à mon avis, va coûter un bras. Et encore pire, enfin moi c'est la pire idée que j'ai jamais entendue d'adaptation de série, c'est le One Piece, qui est un manga très cartoonesque avec un trait vraiment particulier, qui va aussi être adapté en série, et que le seul argument pour le moment, c'est, vous allez voir, ça va être la série la plus chère de l'histoire.
Alors, on parle de Westworld, c'est de la science-fiction, en une certaine mesure. Est-ce que justement, la SF, c'est pas le meilleur high concept possible quand c'est réussi ? Je pense à Battlestar Galactica, cette question m'est venue en pensant à Battlestar Galactica, c'est du high concept. C'est extrêmement profond, c'est très sociétal, et c'est l'utilisation, la science-fiction, finalement, c'est la définition même du high concept intelligent, en tout cas quand elle est bien faite.
Oui, non, et puis en plus, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle de résurgence de high concept au moment même où on n'a jamais autant entendu parler dans les salles obscures de SF intelligente. Je crois qu'on en revient à cet état de la société, cet état, on va dire, de l'univers culturel, notamment anglophone, où ça y est, on peut assumer de faire un truc, on peut assumer d'aller voir Denis Villeneuve. On va dire que ça a été désacralisé en tant que film de genre. On peut s'attaquer à beaucoup de choses. Et en plus, on illustre, je pense également, par exemple, c'est une série qui regarde sur tous les genres, mais Counterpart, qui nous raconte un truc comme ça, avec ce concept super fort.
C'est une forme de science-fiction, hein, Counterpart.
Bah, oui, complètement.
C'est de la spy-fiction, ils disent.
Oui, c'est vrai,
c'est ça. Il y a des espions dedans.
Ouais, ouais.
Et avec deux mondes parallèles. Oui, bah, c'est ça quand la science-fiction est réussie. Mmh. Et d'ailleurs, avec des moyens qui, sans doute, sont bien plus faibles que ceux de Game of Thrones ou de Westworld. Mais c'est vrai qu'il y a cet enjeu financier, peut-être, qui va différencier ce que pourront faire les grandes chaînes avec des saisons de 13 ou 22 épisodes, avec peut-être des séries alors on n'a pas cité The Handmaid's Tale, hein, qui est aussi une série high concept, alors qui est un petit peu différente, parce que c'est pas comme Westworld, c'est pas censé nous en mettre plein la poire à la façon de Westworld, c'est plus psychologique, si j'ose dire, mais il y a sans doute une course, en tout cas moi j'ai l'impression sur le câble qu'il y a une course à l'histoire surprenante, à faire des choses qui sortent du cadre et du coup qui vont être tentées par le high concept. En tout cas, c'est ce que fait HBO. Tu disais tout à l'heure, le risque, c'est cette course vers le truc énorme. Et le high concept est une forme de bulle qui a éclaté dans les années 2000. Est-ce qu'elle peut éclater presque aussitôt la fin de Game of Thrones? C'est sans doute la grande angoisse d'HBO qui a lancé Westworld avec un succès d'audience, je crois, pas non plus historique. Est-ce que c'est
la
bonne
chose? Ça n'avait pas commencé non plus très très haut, donc ils ont l'espoir que la saison 2 va faire péter les scores, et c'est vrai qu'il y a eu un an et demi entre les deux saisons, et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont rattrapé entre-temps et qui vont se lancer là.
Il me reste deux questions dans ma hotte pour cette émission. La première, toujours liée à Westworld. On entend dans le petit son qu'on a entendu le mot « world » revenir. Ça s'appelle d'ailleurs Westworld, ça tombe bien. Monde, c'est un mot-clé qu'on n'a pas abordé dans cette émission. Le high concept, c'est une histoire de monde. Là, pour le coup, Lost, c'était un monde, Jean-Maxime.
C'est surtout l'exploration, en fait. C'est toujours celle qui marche, en tout cas, c'est explorer un endroit inconnu ou qui a changé, qui a été modifié dans le futur, etc. Et pour le public, c'est de l'évasion parce qu'on est vraiment plus du tout dans le quotidien. On est dans totalement autre chose. L'île déserte, voilà.
Et on peut aussi créer un monde dont on va redéfinir les règles. Et du coup, là, c'est l'aubaine pour le scénariste, Adrien.
Bah, complètement. On crée de A à Z une mythologie. Une mythologie qui a ses codes et que le spectateur doit accepter pour rentrer et se prendre d'affection pour les personnages. Et ce que je voulais dire aussi, moi, dans le mot monde, j'entends aussi le côté réunion, le côté ensemble. Et c'est vrai que, par exemple, moi, Prison Break, c'était le rendez-vous familial. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, avec Game of Thrones, où on se retrouve entre amis avant l'épisode, on chantonne ensemble générique. Et dans ce côté monde, il y a vraiment quelque chose qui nous réunit. Et à notre époque où on est tous coincés devant notre écran tout seul à regarder nos séries, je trouve que c'est vraiment une belle bel aspect des séries à concept.
Une dernière question, un des beaux succès à concept récent, c'est l'allemande Dark sur Netflix, on n'en a pas parlé, qui est d'ailleurs une descendante de Lost, enfin, en tout cas elle s'en revendique certainement dans certains aspects de son récit. On a parlé de certaines séries Netflix ici, donc la question c'est est-ce que le high concept est bingeable, puisqu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui bingent. Ma réponse personnelle c'est que certainement pas, je ne comprends pas comment la tension de ce grand mystère peut rester forte si on l'avale d'un seul coup. Mais je suis peut-être le seul autour de cette table, Jean-Maxime.
Moi, je suis partagé, mais disons que t'as parlé de Dark, c'est le bon exemple de la série où on peut pas laisser passer trop de temps entre chaque épisode, parce que sinon, il y a trop de personnages, c'est trop complexe, on oublie tout et on n'est pas dedans, quoi. Donc,
Westworld, ça pourrait être pareil, hein.
C'est vrai, je pense qu'elle s'apprécie davantage, je l'ai pas regardé comme ça, mais elle s'est, ouais, en binge-watching.
Et c'est pas grave si du coup le grand mystère est aspiré d'un coup sec et non pas en se laissant le droit de rentrer dans ce monde justement et d'en décrypter. Tu parlais Adrien de la discussion entre fans, etc. Le pied des high concepts, c'est aussi de prendre le temps entre chaque épisode de dire ouais, putain il va se passer quoi là, plutôt que de courir et d'aller tout de suite à la fin et de ne pas savoir et de savoir tout de suite ce qui s'est passé.
Oui, c'est vrai que c'est des séries à énigmes et qui posent une réflexion et même au-delà de ça, je dirais. Vu que ça nous permet de nous évader, c'est de voir tous ces personnages faire face à quelque chose qui les dépasse. Et nous, derrière, en tant que spectateurs, on peut prendre du recul, réfléchir sur la série, et vraiment, c'est quelque chose que je trouve assez fort.
Corentin, je te laisse le mot de la fin.
Moi, je n'ai pas bingé Dark, déjà, et je suis totalement sur la ligne de Pierre, c'est-à-dire que c'est une énigme, c'est de la puzzle TV. Et si c'est pour recomposer le puzzle en une demi-heure, Moi, j'ai du mal à adhérer à l'idée. Et ouais, non, je trouve ça assez terrible. Et en plus, qu'est-ce qu'aurait été Westworld bingé d'un coup? Et en même temps, et c'est là le point à Lost, c'est que Lost, c'est quand même une série qui se revoit. Et donc, sur un format Netflix, on apprécie de pouvoir revoir ces trucs comme ça, de pouvoir décomposer l'intrigue. Mais peut-être qu'à la découverte, disons vraiment le moment où on est dedans, c'est quand même pas une bonne idée de faire ça en un week-end.
Jean-Maxime, droit de réponse.
Je veux pas défendre absolument le binge-watching alors que j'adore pas ça non plus, mais disons que on passe peut-être moins de temps dans un même monde, mais quand on est dedans, on y est vraiment, on y est pendant un week-end ou une journée, et on est à fond bien plus finalement qu'une heure par-ci par-là.
Et ce sera donc le mot de la fin de cet épisode 55 d'Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS en partenariat avec Binge Audio. Merci à Jean-Maxime Renaud, Adrien Delage et Corentin Durand. Merci aussi à Quentin qui était à la technique. La semaine prochaine, on s'amusera un peu avec un battle, une battle des classiques, un combat pour la beauté du sport entre les plus grandes séries de l'histoire, Friends versus How I Met Your Mother ou Six Feet Under versus Friday Night Lights. D'ici là, rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter qui ont encore besoin qu'on les like. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
Next one. Whoa, wait. Put it in what? That's the last one.